Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'aboutissement de 7 semaines de concertation entre pouvoirs publics et syndicats. Presque 2 mois et donc une négociation. Ce Ségur de la santé, initié au lendemain du pic de la crise sanitaire du Covid-19. Crise qui a fait peser sur l'hôpital public français et ses personnels dans leur diversité une pression absolument inédite. Infirmières, médecins, aides-soignantes, administratifs, employés des services de nettoyage, de logistique, soumis à une déferlante qui les a obligés à se réorganiser, à pousser les murs, à se mettre en danger, sans compter les heures. Au cœur de la crise, en déplacement à Mulhouse, le président Macron avait promis un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières pour l'hôpital. Cette mobilisation des acteurs de la santé sans précédent avait suivi près d'une année de lutte en faveur de l'hôpital public et les soignants dans leur diversité, encore une fois, au-delà de la reconnaissance et des bravos, attendaient des moyens à la hauteur non seulement des promesses, mais surtout des besoins. Refonder le système de santé en s'appuyant sur 4 piliers, c'est la proposition, les métiers, le financement, les équipes, l'organisation territoriale. 7 semaines de concertation et des annonces encore partielles concernant notamment un protocole d'accord de 7,5 milliards d'euros. On va y revenir dans le détail au cours de cette émission. Et c'est donc sur ce document, ces engagements, que les syndicats sont désormais appelés à se prononcer. Vaste ambition, annonce concrète très attendue par le monde de la santé. Les premières communications concernent un protocole d'accord qui chiffre à 180 euros net mensuel la hausse des salaires pour les personnels hospitaliers. Première moitié en septembre, l'autre au printemps. Mais les besoins de l'hôpital public dépassent cette simple question, même essentielle, des rémunérations. Et c'est sur ce point qu'est attendu mardi 14 juillet le chef de l'État. C'est ce que l'on va voir en compagnie de nos 3 invités en direct avec nous. Professeur Frédéric Adnet, bonjour. Professeur Adnet, bonjour. Vous êtes chef de service des urgences à l'hôpital Avicenne à Bobigny, également directeur médical du SAMU de la Seine-Saint-Denis en ligne. Docteur François Salacaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, représentant du collectif Interhôpitaux. Et on retrouve également un médecin qui est président de la Société française de santé publique. Professeur Emmanuel Ruge, bonjour.
Bonjour à vous.
Praticien hospitalier en santé publique au CHU de Tours, président de la Conférence nationale de santé. Et on va donner également la parole à France, infirmière à l'hôpital de Mulhouse. Pendant cette crise sanitaire, elle nous avait raconté la situation critique, les manques de moyens et les inquiétudes des soignants.
Priorité santé sur RFI.
Et messieurs, c'est précisément à France que nous allons donner dans un premier temps la parole, ouvrir notre micro dans Priorité Santé. Infirmière, elle est aussi engagée pour une amélioration des rémunérations, des conditions de travail au sein de l'hôpital public. France, bonjour.
Bonjour.
Alors, infirmière actuellement en arrêt maladie, on a enregistré cet entretien pour une raison aussi simple que désolante, c'est que dans le cadre de votre exercice, de l'exercice du métier d'infirmière, vous avez été agressée, donc à l'heure de l'émission, vous vous soignez, vous êtes en rééducation. C'est loin d'être anecdotique, parce qu'infirmière à l'hôpital, quand on a vécu la crise du Covid dans cette région de Mulhouse, ça a été vraiment une épreuve. D'ailleurs, on vous avait eu plusieurs fois pour témoigner, pour raconter comment ça se passait chez vous. Difficulté du métier au quotidien, une épreuve un petit peu exceptionnelle, la violence. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui après tout ce mélange, on va dire aussi, d'émotions?
Il y a de l'incompréhension. Les gens viennent pour se faire soigner et en réalité, ils sont tellement dans l'excessif et dans la démesure qu'ils arrivent même à nous agresser. Et c'est dans la compréhension, puisque quand on est dans le métier, on a envie de soigner les gens, de prendre soin d'eux, et on s'attend pas à ce qu'il y ait de la violence en retour. Donc c'est difficile à l'entendre.
C'est difficile aussi à subir. Quand vous étiez justement au cœur de la crise du Covid, il y avait là encore beaucoup d'émotions par rapport à tout cet afflux de patients, tout ce travail à faire. Quand vous êtes sorti, on va dire, du pic de l'épidémie, de la crise, vous attendiez quoi?
On s'attendait à ce qu'il y ait de l'indulgence au niveau de la population, à ce qu'ils entendent nos difficultés. Alors, il est vrai que pendant cette période critique du Covid, quand on était au pic, on sentait qu'il y avait du soutien de la population, du respect vis-à-vis de notre profession et de notre métier. Et là, en sortie de crise, j'ai l'impression que tout a été oublié. Les gens reprennent leur vie d'avant, comme si rien ne s'était passé.
Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, l'impression que, de la part des autorités publiques aussi, il y a une forme d'oubli? Bien sûr, au cœur de la crise, Emmanuel Macron est venu d'ailleurs chez vous, à Mulhouse, annoncer qu'il y aurait un grand plan. Ensuite, il y a eu donc le coup d'envoi du Ségur, c'était il y a 7 semaines. Et on a des propositions sous les yeux, hein, protocole d'accord issu des négociations. Une somme annoncée, 180 euros net mensuel d'augmentation pour les personnels hospitaliers. Ça devrait donc se passer en plusieurs vagues. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, France, comment est-ce que vous avez accueilli ce chiffre?
Avec tristesse.
Ouais.
Avec tristesse et franchement désespoir. On pensait qu'on allait être valorisé à notre juste valeur, puisque pendant cette période Covid, on nous a considérés comme des héros. On s'est dit, bah tiens, ils ont peut-être enfin compris l'intérêt de notre métier et l'importance. Et en fin de compte, on se rend compte que ce n'est pas le cas là, après ce Ségur. C'est loin de nos attentes, en tout cas.
Vous dites nos attentes parce que c'est quelque chose que vous partagez avec vos collègues. Vous en parlez entre vous?
Ah oui, tout à fait. Dans nos attentes, il y avait une revalorisation salariale. On demandait une augmentation de 300 euros, on n'y est pas. Une augmentation du nombre de lits, ce qui est une grande difficulté, mais qui était d'avant la crise déjà. Voilà. En termes de personnel, nous réclamons énormément de personnel. On a besoin pour prodiguer des soins voilà, convenables. Et en fait, on se rend compte qu'on est loin de nos attentes.
Rémunération, hein, l'épuisement, la qualité des soins. L'annonce de 15 000 embauches, hein, c'est l'autre chiffre pour l'instant qui est connu du grand public. Création de postes, recrutement pour des postes vacants. Pour vous, le compte y est ou le compte n'y est pas?
Je pense que le compte n'y est pas. Sur tous les points, le compte n'y est pas. Et, comme ils disent, le compte n'est pas bon, Kevin. Et je pense que voilà, les comptes ne sont pas bons depuis des années et ça continue. Je sais pas. Je pense qu'il va y avoir un épuisement du personnel. Je pense qu'il y en a qui vont arrêter ce métier et d'autres ne s'y lanceront pas par mépris, par tristesse.
Justement, sur cette dimension de l'épuisement et de la charge émotionnelle, finalement, on peut se demander, est-ce qu'il y aurait de l'argent, est-ce qu'il y aurait des moyens matériels qui pourraient venir apaiser tout ça, ou finalement c'est impossible parce que les attentes sont tellement énormes?
J'ai pas l'impression que les attentes sont tellement énormes, elles sont juste réalistes vis-à-vis de la situation. Pour moi, la santé, c'est quelque chose de primordial, puisque sans la santé, on ne fait rien. Mmh. Quand je vois qu'il y a des milliers, des milliards d'euros qui sont injectés dans certains domaines, et la santé, on est toujours pauvre en termes de moyens. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris là-dedans, c'est que sans la santé, on ne fait rien.
Vous citez ces milliards, il y a eu 15 milliards effectivement d'aides publiques pour l'aéronautique, 8 milliards pour le secteur de l'automobile. Je le disais tout à l'heure en mars, Emmanuel Macron, le président, est venu vous voir à Mulhouse, il a vu les personnels hospitaliers, il a promis une réponse profonde dans la durée, plan massif, je reprends ces termes. Le 14 juillet, il doit parler. Vous espérez quoi? Je me souviens que je vous avais déjà posé la question, si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, vous lui diriez quoi? Monsieur le Président, j'ai besoin de...
J'ai besoin d'être valorisée à ma juste valeur. J'ai besoin qu'on me donne les moyens de soigner les gens correctement, dignement. On a besoin de lits, parce que les patients, c'est vraiment inadmissible. Ils attendent sur des brancards des heures. On ne sait plus où les hospitaliser. On a besoin de moyens, mais vraiment importants. On a besoin d'être entendus.
Les infirmières françaises, hein, en ce qui concerne les salaires, elles se rangent à la 28e position sur 32 au niveau européen. À ce rythme-là, hein, avec les 180 euros, le rattrapage sera long.
Ah oui, on est loin d'un rattrapage, là. C'est inadmissible, c'est inentendable même. on est en France, on a un système de santé qui est quand même normalement adapté aux besoins de la population comparé à d'autres pays. Et en fin de compte, on n'est pas valorisé à notre juste valeur. C'est déplorable.
Merci beaucoup, France. Merci de nous avoir donné de votre temps. Très bonne continuation et bonne convalescence à Mulhouse. À très bientôt.
Merci, à
merci,
bientôt.
Merci, bon courage. Docteur François Salacas, témoignage de France, infirmière à Mulhouse. Peut-être pour commencer, tout simplement, une première réaction.
Écoutez, je crois qu'elle a à peu près tout dit hein, sur le ressenti des personnels de santé et sur l'énorme déception et l'écart qui existe entre le langage et puis les actes. Donc, il y a sur les revendications principales, hein, évidemment, il y a des revalorisations salariales qui sont nécessaires et qui sont pas au niveau de ce qui était attendu. Faut dire clairement les choses. Le rattrapage par rapport à l'OCDE, on ne sait pas du tout s'il va être programmé et quel va être le calendrier. Moi, j'ai rien entendu de ce côté-là jusqu'à présent. Alors, il y a aussi un élément qui est extrêmement important, c'est les embauches. Parce que, clairement, actuellement, je suis pas sûr que nos concitoyens soient conscients du fait que les lits qui ont été fermés dans la période Covid n'ont pas été réouverts pour bon nombre d'entre eux. Et ils ne réouvriront que si on embauche. Et on embauchera que si c'est attractif. Et ce ne sera attractif que si les niveaux de rémunération augmentent plus que cela n'est proposé actuellement. Et surtout, parce qu'on oublie de le dire, si les conditions de travail s'améliorent. Mmh. Et les conditions de travail, quand on est un personnel hospitalier, une aide-soignante, un infirmier, ça veut dire que la charge de travail doit être calculée d'abord, non pas par des instances qui sont très très loin du terrain, mais par les services eux-mêmes qui doivent définir les conditions de sécurité et de qualité des soins. Et ça veut dire en clair qu'une infirmière pour 12 patients dans un service de médecine, c'est inadmissible. Et alors pourquoi il y a une telle déception? Je crois qu'on peut parler de gueule de bois quand même, hein, enfin au sens où quand on a beaucoup d'espoir et que la descente est vertigineuse hein, pour les personnels entre la période Covid et la période actuelle.
On comprend bien le découragement, docteur Salacas. On se souvient de votre interpellation du président Emmanuel Macron à la fin du mois de février, quand il était venu chez vous à la Pitié-Salpêtrière. Vous lui aviez dit alors, vous pouvez compter sur nous, l'inverse reste à prouver. Là, il y a 7 semaines de Ségur, il y a des négociations. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ce gouvernement, eh bien, vous pouvez compter sur lui ou pas du tout?
Non, je pense vraiment qu'il n'a pas pris la mesure de l'importance des difficultés. Alors, c'est toujours pareil, hein, les politiques, ils disent c'est pas moi, c'est l'autre. Hein, ça fait 10 ans que c'est comme ça. On a une responsabilité et c'est la première chose qu'a dit le président d'ailleurs, comme s'il y avait une attaque à sa qualité personnelle en disant moi je veux bien qu'on me dise que c'est de ma faute mais tous les autres gna, gna, gna. Bon, vous voyez c'est quand même
Vous pensez peu importe le passé on s'arrête là, on est au temps 1 et on recommence, on va vers l'avenir.
Mais bien sûr, je veux dire quand même c'est quand même un niveau d'argumentation de pour un politique devant une crise de cette ampleur et devant le péril pour l'hôpital public, le niveau d'argumentation qui consiste à dire « je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé », je lui avais répondu, d'ailleurs ça avait été entendu, quand il y a le feu, on ne dit pas « ah oui, mais ça couvre depuis longtemps ». Non, on éteint le feu. Alors, ce qui se passe au Ségur actuellement, est-ce que ça suffit à éteindre le feu? Je ne pense pas, parce que on découple un petit peu... Il y a le problème des rémunérations, il y a le problème des ratios de personnel par rapport à la charge de travail. Et en fait, les personnels ne reviendront pas ou continueront à partir de l'hôpital public si on n'assure pas ces ratios. Le terme de ratio n'est pas si technique que ça. Ça veut dire en clair, il y a combien de patients pour combien d'infirmières. Et ça, je pense, c'est l'élément crucial. Et dernier point, enfin après, il y a le problème de la gouvernance. Actuellement, la gouvernance dans les hôpitaux, c'est des administratifs qui ont des objectifs financiers et qui, de ce fait, exercent sur les soignants ce qu'il faut appeler de la maltraitance institutionnelle. Et puis surtout, avec un conflit de valeurs majeur, puisque l'objectif d'un directeur...
Entre le budget et le soin.
Mais oui, non, mais parce que de ce fait, et quoi qu'on en dise, du coup, les directions administratives n'ont pas les mêmes objectifs que les soignants. les soignants, ils ont les patients en face d'eux. Alors après, on pourrait imaginer hein, que dès qu'on ne peut pas hospitaliser un patient, on l'envoie à la direction. Et puis, on a vraiment l'impression du ressenti.
Mais il y a une question de lisibilité aussi, docteur Salakas. On a ce chiffre de 7 milliards et demi d'euros sur la table. Si j'ai bien compris pour l'instant, je suis pas sûre d'avoir tout compris, hein, d'ailleurs. C'est uniquement le volet salaire embauche qui est budgété. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le reste du chantier, hein, les quatre piliers, métier, équipe, organisation territoriale, c'est budgété? Ça ne va pas être budgété? Il va y avoir des fonds en plus? Comment ça se passe?
Ah, on ne sait pas du tout.
On ne sait pas.
On ne sait pas du tout parce que il faut comprendre. Hein, ce Ségur, il a été mené. Quand on est gentil, on dit tambour battant. Mm-hmm. En fait, il a été mené dans des conditions.
C'est plutôt un solo de batterie. Hein.
Oui, il faut savoir qu'à l'heure où on parle, on n'a toujours pas de texte de synthèse des piliers les plus ambitieux, à savoir ceux du financement, ceux de la gouvernance et ceux de la prise en charge territoriale de la santé en France. Donc, vous voyez, et là actuellement, il y a un zoom de restitution hein, du Ségur. Mm-hmm. On va voir ce qu'il en sort, mais clairement, l'ambition pour les piliers qui vont restructurer l'hôpital public, c'est une ambition qu'il va falloir s'inscrire dans la durée. Et vraiment, je voudrais faire comprendre que le mode de financement de l'hôpital public et la gouvernance, c'est des choses extrêmement liées. Parce que
mais ça, le grand public n'en a pas forcément conscience. D'autant c'est un petit peu plaidé contre vous. Vous avez été finalement, avec peu de moyens, tellement bon pendant la crise que les gens se disent, bah oui, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Hein. On a même entendu ça sur certains plateaux de télé, un petit peu de façon surréaliste.
La pleurnicherie.
Exactement, c'est absolument odieux. Et là, ce qu'on voit, c'est... désolé de vous le dire, vous êtes des bons, même avec moins de moyens, vous êtes des bons. Ben finalement, messieurs les docteurs, continuez comme ça. Mesdames les infirmières.
Écoutez, il y a des commissions d'enquête actuellement sur la gestion de la crise du Covid. Il y a même des accusations qui ont été portées, une judiciarisation. Et c'est bien pour dire que si l'hôpital a tenu, c'est grâce à ses soignants. Mmh. Ça, c'est une certitude. Je ne suis pas d'accord sur les moyens. Mmh. Les moyens qui ont été donnés pendant la crise du Covid ont été gigantesques.
Énormes.
C'est-à-dire que justement, on s'est aperçu que quand on donne des moyens financiers à des acteurs de terrain, et je crois que c'est le maître mot, c'est les acteurs de terrain à qui on a confisqué la capacité d'action pendant des années, et on l'a rendu pendant 2 mois, et croyez-moi, en fait, les gens ne reviendront pas dans le monde d'avant, et moi, je suis vraiment pas sûr que les gouvernants, et Olivier Véran, et Emmanuel Macron, aient pris la mesure du fait que non, c'est comme après une grève. Ouais. Est-ce que les gens vont reprendre le boulot? Certainement pas, et certainement pas dans les mêmes conditions.
Une forme de paradoxe, c'est cette crise, ça a été finalement pour beaucoup, hein, professeur Frédéric Adnet, une bouffée d'oxygène. Vous, votre spécialité, c'est les urgences. La crise des urgences, ça fait des années qu'on en entend parler. Ça veut dire que tout ça, c'est vraiment, ce sont des questions structurelles.
Oui, enfin, des questions structurelles, des questions de moyens, donc... Beaucoup de choses ont été dites, pratiquement tout a été dit, et moi, mon sentiment, c'est une immense déception, parce que pendant la crise, on se souvient tous du discours de notre président de la République à Mulhouse, qui avait suscité énormément d'espoir, hein, et tout ce qu'il avait dit réellement, qu'il allait faire un investissement massif dans l'hôpital public, que l'hôpital public c'était un pilier de la République, et qu'il allait arrêter la fermeture des hôpitaux et des lits. Or, force est de constater que après la crise, on revient, de manière assez insidieuse d'ailleurs, on revient à l'hôpital d'avant-crise, c'est-à-dire qu'on remet sur la table tous les plans de rationnement de soins, de rationnement du nombre de lits, de fermeture d'hôpitaux. J'en veux pour preuve que les hôpitaux de la PHP, Bichat, Vaujon, Garches, Jean Verdier, pour lesquels les fermetures correspondent à une diminution importante du nombre de lits total, sont remis sur la table et reprogrammés alors que la crise n'est pas encore complètement finie. Donc oui, je voudrais rebondir sur une chose qu'on a déjà évoquée, c'est que on a vécu pendant la crise un autre hôpital. Les directions hospitalières, un petit peu affolées par l'ampleur de la crise, ont remis les clés de l'hôpital aux praticiens, aux soignants.
Cette fameuse gouvernance.
Exactement. Les moyens ont été disponibles, effectivement, dans une période un petit peu d'affolement. Et on a vu un hôpital qui s'est organisé autour du soin, autour des patients, complètement à l'opposé de l'ancienne gouvernance. Et on s'est tous dit, bon ben maintenant, cette crise a été une catastrophe nationale, mais il y a des leçons à tirer en termes de management de l'hôpital, en termes de gouvernance, en termes de fonctionnement, en termes de matériel et de personnel. Mais malheureusement, je suis responsable d'un département médico-universitaire. Je vois que malheureusement, les réunions comme avant reviennent avec un poids de l'administration et des directions qui reprennent cette ancienne logique. Alors,
et dans ces débats, justement, quand vous êtes face à la direction, il y a quand même, on va pas dire un vent de mutinerie de la part des médecins, mais est-ce que vous exprimez, comment ça s'exprime justement? On a tenu la barre, on a assuré, aujourd'hui ne nous remettez pas, on va pas exagérer en disant en fond de cale, mais ne nous remettez pas à l'arrière du bateau.
Oui, on le dit, puis les directions hospitalières, il faut pas non plus les condamner, elles appliquent une politique qu'on leur demande de poursuivre. Mais ces directions hospitalières, on a travaillé parfaitement avec elles lorsque, pendant la crise. C'est-à-dire qu'elles se sont mises vraiment, pendant cette crise, au service du patient. Mais malheureusement, les directives, et ils sont là pour ça, reviennent sur cette ancienne politique de rationnement du soin et du capacitaire, c'est-à-dire du nombre de lits. Alors bien sûr que pour moi, le Ségur suscitait énormément d'espoir. C'est pas encore fini, donc on va voir ce que va coucher de ce Ségur, mais je suis malheureusement de plus en plus pessimiste alors que j'étais plein d'espoir.
Alors, on évoquait tout à l'heure, à plusieurs reprises, ces promesses formulées par le chef de l'État, plan massif d'investissement, c'était l'expression qu'il avait employée alors. Professeur Emmanuel Ruche, est-ce que cet adjectif de massif correspond à ce qui se dessine en ce moment?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est massif, au regard de ce que l'on peut observer dans d'autres secteurs d'activité et les moyens qui sont mobilisés. Moi, je pense que de ce que l'on vient d'échanger, il y a un paradigme quand même que cette crise sanitaire a mis en exergue et qui a souligné, c'est que la santé, avant d'être une dépense, c'est un investissement. Mmh. Et l'argent que l'on met dans le système de santé, c'est un investissement. Quand on voit l'impact que cette crise sanitaire a à la fois sur le système de santé d'aujourd'hui, mais aussi sur le système économique à venir, on pleure un petit peu, si je puis dire, il y a un certain nombre de choix qui ont pu être faits dans le passé. Alors on va pas revenir pour savoir si c'est il y a 5 ans, 3 ans, 10 ans ou 20 ans, c'est une longue histoire et je pense qu'il faut dire et réaffirmer que les dépenses dans le champ du système de santé, c'est d'abord un investissement d'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller l'argent, mais c'est un investissement d'avenir et ça doit aussi impacter, comme le disaient tout à l'heure mes collègues et l'infirmière que vous avez interrogée, c'est aussi une question de gouvernance. Mmh. Derrière.
Mais il y a peut-être une question aussi dans la méthode, comment ça se déroule. Et effectivement, ça a été décidé quand on était au cœur de la crise. Après, ça s'est engagé une fois que la France, on va dire, a déconfiné. Malgré tout, on a du mal à comprendre comment ça se passe. Parce que finalement, on annonce au grand public des sommes, 7 milliards et demi, encore une fois, je le répète, c'est la moitié de ce qui est consenti pour l'aéronautique. On dit bien sûr, derrière, il y a des emplois. Mais là, on l'a bien compris, là, il y a le cœur de nos vies avec ce qu'on a traversé. Des sommes et sur l'organisation, parce que les médecins, les infirmières, le temps de travail, l'épuisement, ils le répètent depuis des mois, c'est ça l'essentiel. On a l'impression que sur cette organisation, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer.
Alors, c'est tout à fait juste. Alors après, je pense que, personnellement, je n'avais pas d'espoir particulier sur un processus de quelques semaines qu'on appelle le Ségur de la c'est santé, alors que cela fait des années, voire des décennies, que des diagnostics sont partagés sur l'état du système de santé en France. Moi, ce qui me semble très important, c'est que de considérer en tout cas que le Ségur de la santé n'est qu'une étape. Mmh. Et ça ne peut être qu'une étape. Ça ne peut pas être une fin en soi. Ce n'est qu'une étape, et c'est une étape parce que, je le rappelle quand même, la pandémie mondiale continue son cours, mmh. et que si nous avons contrôlé plus ou moins pour l'instant sur le territoire français, et pas ni en Guyane ni à Mayotte, la situation, ça ne veut pas dire que demain ce sera tout à fait sous contrôle. Donc nous sommes à un moment de l'épidémie en France et ce n'est pas terminé. Donc le Ségur de la santé ne peut être qu'une étape. Ça ne peut être qu'une étape parce que nous avons besoin d'un retour d'expérience sur des choses qui sont très diverses. Moi, j'habite en région Centre-Val-de-Loire et j'exerce mon métier en région Centre-Val-de-Loire. Nous avons eu la chance de ne pas trop être touchés par la circulation du virus et par l'épidémie en France. Mais nous sommes la région où le nombre de professionnels de santé rapportés à la population, ce qu'on appelle la démographie, est la plus faible. Donc, que se serait-il passé si nous avions été frappés à la hauteur de d'autres régions ont été frappées.
Pour faire bien comprendre aussi à notre auditoire, vous savez, une bonne partie des gens qui nous écoutent vivent en Afrique. Quand on explique dans notre système de santé, qu'est-ce que ça change quand on se fait soigner à l'hôpital, finalement, que les médecins, que les infirmières reprennent la main par rapport à ce qu'on va dire une direction administrative? En quoi est-ce que ça améliore les conditions du soin, professeur Emmanuel Ruch? D'ailleurs, est-ce que ça améliore les conditions du soin?
Alors, la réponse, elle n'est pas simple. Bien sûr que le système de santé a fait la démonstration qu'il était en capacité de s'adapter, ce que vous disiez tout à l'heure, malgré les moyens qui sont les siens. Alors, on est dans la sixième puissance mondiale, donc nous ne sommes pas dans une situation non plus comparable à d'autres pays. Donc, voilà, on a quand même la chance d'être dans un pays riche, je le rappelle. Et malgré cela, nous avons été durement impactés par la crise. Donc on a besoin de faire confiance aux acteurs de terrain, parce que les acteurs de terrain, que ce soit d'ailleurs les professionnels de santé, les partenaires sociaux, que ce soit les représentants de patients et d'usagers, ils connaissent les ressources qui sont disponibles et ils sont capables d'adapter au mieux les actions à la situation et aux besoins. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne quand même sur quelque chose qui ressemble à de la confiance vis-à-vis des acteurs du système de santé de façon large. Et je voudrais redire quelque chose quand même. Le système de santé, c'est très complexe. On parle là beaucoup de l'hôpital et c'est très important, mais vous avez le système ambulatoire, vous avez les professionnels de santé, médecins, libéraux, infirmiers, kinés, et j'en oublie tous les autres. Vous avez les soins à domicile et tout ceci, c'est un continuum. Donc il faut l'organiser.
Et ça veut dire aussi peut-être décloisonner, parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes de transmission, des personnes qui étaient d'excellente volonté, qui se retrouvaient sur le côté, alors que dans d'autres secteurs, eh bien, on était en manque.
Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est une étape, le Ségur, parce qu'il faut en faire un retour d'expérience construit sur plusieurs mois, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui ont été prises et qui ont été tout à fait à la fois exceptionnelles et utiles. Il faut qu'on ait des retours d'expérience, notamment aussi sur les populations les plus fragiles, parce que cette crise sanitaire et économique qui arrive, elle impacte d'abord les plus fragiles. Donc il faut mettre en place les systèmes d'accompagnement de ces populations, parce qu'autrement on va agrandir encore les écarts et les inégalités au sein de notre pays. Je voudrais juste quand même rajouter un point. On a en France mis en place depuis un certain nombre d'années des instances dites de démocratie en santé, au département, à la région et au national. Et le constat, dans ces instances, on a tous les acteurs qui sont représentés du système de santé. Le constat, c'est que l'on a mis de côté ces instances de démocratie en santé. On les a écartés.
On a les interlocuteurs, on ne fait pas appel à eux.
On ne fait pas appel à eux, et bien sûr qu'il n'aurait pas fait. La question n'est pas de faire appel à eux au moment du Ségur de la santé, mais tout au long de la vie d'un système de santé. Et je reviens là-dessus parce que les retours que l'on a des territoires, c'est que ni les représentants des partenaires sociaux, ni les représentants des usagers du système de santé n'ont eu l'occasion ou n'ont pu se mobiliser. Alors il y a un effet de sidération dans une crise, mais au-delà de l'effet de sidération, il y a une responsabilité collective que nous partageons sur notre incapacité à mobiliser les instances de démocratie en santé en France.
Alors, si vous le voulez bien, on va refaire des espèces de gros plans sur les éléments du protocole qui ont été portés à la connaissance du grand public. On a parlé des 7,5 milliards d'euros tout à l'heure, avec ce qui se profile en termes d'augmentation. On a compris, on sera très loin d'un rattrapage au niveau européen. Le volet emploi, professeur Frédéric Adnet, 15 000 embauches, pour moitié des créations de postes, pour l'autre, recrutement pour des postes non pourvus. Qu'est-ce que vous en pensez, cette dimension de l'emploi? On l'entendait tout à l'heure avec le témoignage de France, infirmière à Mulhouse. Cet emploi, c'est essentiel face à des personnels en état d'épuisement, puis aussi parfois à des patients sur des brancards qui attendent d'être pris en charge.
Oui, oui, tout à fait. 15 000 emplois, ça veut pas dire grand-chose. Mm-hmm. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que si on n'améliore pas l'attractivité de l'hôpital public, mm-hmm. les conditions de travail, la rémunération... on n'arrivera pas à recruter du personnel, et les conditions de travail, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour beaucoup, je parle pas de l'augmentation des salaires, mais les conditions de travail, mm-hmm. c'est, on en a dit un mot tout à l'heure, c'est, si vous voulez, en gros, le nombre de soignants par lit, par malade. Actuellement, on est sur un nombre de soignants par malade qui est scandaleusement bas, c'est-à-dire qu'il y a très peu de soignants pour beaucoup de malades, et au détriment des soins de confort, au détriment de la prise en charge des malades. Vous savez, il n'y a pas que le soin, il n'y a pas que l'acte médical quand on accueille un malade aux urgences ou dans un service. Il y a tous les soins de confort, il y a le temps que l'on va passer avec ces patients qui sont très important et qui joue aussi sur l'évolution de la maladie.
Malgré tout, professeur Adnet, si vous me permettez, il y a certaines instances médicales. J'ai lu les propositions de l'Académie de médecine par rapport justement à ce Ségur de la santé, et ils disent en gros, oulala, surtout pas de ratio, parce que c'est une vision stricte, contraignante. Est-ce que pour vous, à l'inverse, il faudrait un ratio soignant lit, comme ça se fait par exemple, là encore, à un niveau nettement insuffisant dans les structures d'accueil de personnes âgées? Est-ce qu'il faut aller vers, on va dire, une sanctuarisation pour dire, en dessous de tant de soignants, eh bien, les soins de bonne qualité sont impossibles?
Voilà. Alors, le ratio, appliquer aveuglement un ratio, ça n'a aucun sens mmh. en médecine. La médecine, c'est pas une science exacte, et des services ont des spécificités, mmh. des pénibilités différentes, des spécificités différentes qui font qu'on doit adapter un ratio qui pourrait être une norme de base, par exemple, qui existe, par exemple, en anesthésie, en réanimation, mmh. où on a une norme de base par rapport à laquelle on ne peut pas descendre en dessous.
Par spécialité.
Ces ratios, et c'est pour ça qu'on parlait de médicalisation de la gouvernance, c'est l'adaptation de ces ratios aux spécificités du service, c'est des problèmes éminemment médicaux. Mmh. Et ça nous manque. Nos directions administratives qui ont le pouvoir à l'hôpital appliquent, on va dire, de manière un peu aveugle ces ratios, parce que simplement ils n'ont pas la connaissance et le pouvoir de les modifier en fonction de priorités médicales ou de spécificités médicales. Donc quand on réclame de médicaliser un peu plus la gouvernance hospitalière, c'est pas pour que les médecins prennent le pouvoir complètement, c'est pour qu'il y ait un équilibre entre le juste soin, donc la médicalisation de la gouvernance, et le juste coût, qui est, si vous voulez, la vision, on va dire, comptable, parce que, évidemment, le soin a un coût.
Est-ce que docteur François Salacas voulait également réagir sur ce fameux chiffre? Pour l'instant, on a un petit peu que cela pour donner notre avis, pour vous donner votre avis en tant que professionnel. 15 000 embauches, quand vous avez entendu cela, vous avez pensé quoi?
D'abord, il y a une ambiguïté. C'est, est-ce qu'on considère le nombre de postes qui est paramétré actuellement, et que donc sur ces postes qui sont budgétés mais non occupés, est-ce que c'est ces 15 000 qui vont venir dans ce cadre-là, ou en plus du périmètre actuel de soignants en France? Mmh. J'avoue que j'ai pas bien compris.
Moi, j'ai vu pour moitié création, pour moitié recrutement non pourvu. Donc, remplacer les manques.
Donc ça fait
plus que 7500, ouais. Ouais, tout simplement.
Voilà, ouais. Ça montre une seule chose, c'est que la nécessité que l'hôpital manque de bras a été au moins repérée. Maintenant, en termes de dimensionnement, 7500, je pense qu'on n'y est pas du tout. Et je voudrais rebondir sur la définition de qui définit les ratios. Est-ce que c'est une société savante?
qui, du haut de sa connaissance, dit voilà, il faut tant dans telle spécialité, la neurologie, la cardiologie, il faut tant. Ou est-ce que, encore une fois, les acteurs de terrain qui sont au plus près, parce que les patients ont beaucoup changé dans les hôpitaux, hein. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions qu'il y a 20 ans ou même il y a 15 ans. Les patients sont devenus beaucoup plus lourds, il y a eu une réduction du nombre de lits. Donc on a concentré à l'hôpital des patients qui sont très demandeurs en personnel.
Et on n'a pas forcément les mêmes besoins d'un territoire à l'autre d'ailleurs. Il peut y avoir des spécificités socio-économiques qui créent des différences.
Absolument. Donc qui doit définir ça? Nous on reste persuadés que là on retombe encore sur la gouvernance. C'est-à-dire que c'est à l'échelle du service qu'on doit définir les besoins en personnel et après ça doit remonter. Ce qui se passe actuellement, c'est pas ça. C'est la masse salariale est gelée et débrouillez-vous avec une masse salariale gelée, ce qui veut dire ne pas remplacer ceux qui sont en congé maternité, en congé maladie, etc. Et donc on se retrouve dans des situations de spirale infernale avec finalement... au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir une situation, et ça n'a pas été assez dit, qui fait que, de fait, on va fermer des lits, et ces lits ne rouvriront jamais. Il y a un énorme risque du fait que si on n'arrive pas à faire une adéquation de qualité entre le nombre de soignants et le nombre de lits, eh bien, on ne rouvrira pas les lits qui ont été fermés par la période Covid, parce que, je réinsiste là-dessus, à l'heure actuelle, l'hôpital public en France, il tourne sur 2, 3 cylindres sur 4. Et on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. Moi, je suis extrêmement inquiet sur la capacité de l'hôpital public à assurer, comme l'avait demandé Emmanuel Macron quand il est venu le 27 février à la Salpêtrière. Donc je pense que de ce point de vue-là, les résultats actuels de ce qu'on sait du Ségur ne sont pas du tout assez ambitieux.
Professeur Emmanuel Ruche, excusez-moi, juste tout à l'heure, vous disiez les interlocuteurs existent, on ne les entend pas forcément. Est-ce que ce sont précisément ces interlocuteurs qui sont basés dans les territoires qui pourraient faire remonter les informations pour que l'on puisse justement avoir une idée de ce nombre de postes nécessaires, de cette dimension du personnel soignant, des ressources humaines qui correspondent aux vrais besoins?
En tout cas, je pense qu'il faut il faut s'appuyer que ce soit au sein d'un hôpital comme ce qui vient d'être dit, mais au sein d'un territoire géographique, il faut s'appuyer sur le diagnostic qui est porté par les acteurs. La difficulté entre guillemets, c'est que il faut mettre ces acteurs autour d'une table parce que effectivement chacun voit d'une certaine façon midi à sa porte. Mais si on ne met pas les acteurs autour d'une table, et il n'y a pas de discussion possible. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur ces lieux de discussion, de concertation et de négociation nécessaires sur lesquels on est fragile dans notre système actuellement. Donc oui, il faut faire remonter avec des regards croisés les diagnostics des acteurs qui sont le plus proches des besoins. Et cela comprend, je le redis encore une fois parce que ça a été pour moi un étonnement, y compris les représentants des usagers et des patients.
Alors justement, on parle d'argent, on parle de milliards, on parle de dizaines de milliers d'emplois. Si on parle de réorganiser l'hôpital, si on parle de cette gouvernance, professeur Emmanuel Ruche, est-ce que ça va coûter de l'argent ou c'est finalement redistribuer, échanger les rôles et finalement c'est davantage bien sûr un travail très profond, très important en termes d'organisation, mais ce n'est pas forcément plus d'argent.
Ça me semble difficile de dire que ce n'est pas plus d'argent. Il y a bien sûr, je le redis, il y a une attention que chacun d'entre nous, nous devons avoir sur l'utilisation des crédits publics, hein, des fonds publics, hein, de l'argent, de nos impôts, de nos cotisations, etc. Donc bien sûr que nous avons une responsabilité vis-à-vis de ça. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que les dépenses dans le champ du système de santé, ce sont un investissement. Voilà, simplement, il faut le rentrer dans la gouvernance, cette notion-là. Et alors que dans la gouvernance, on nous parle sans arrêt de dépenses. On ne nous dit que ce terme-là. Ce sont des dépenses. Donc, à partir du moment où on est dans cette posture-là, effectivement, on est dans un mécanisme un peu de comptable.
Un mécanisme tronqué, c'est pour ça qu'on entend bien en ce moment l'expression qu'il faut changer de paradigme. On va se retrouver dans quelques secondes après une petite respiration.
Priorité santé sur RFI.
Priorité santé sur RFI, on parle de la conclusion du Ségur de la santé. Cela devrait être bouclé le jour de la fête nationale, le 14 juillet, puisqu'on attend les déclarations du président Emmanuel Macron après des premières annonces quantifiées. 7,5 milliards d'euros pour les salaires des personnels non médecins. Également 15 000 emplois répartis assez diversement, on l'a bien compris. Docteur François Salacas, dans l'entourage du ministre de la Santé, on parle projet d'accord historique. On vient de vous entendre, vous trois, médecins, professionnels de santé, avec, on va dire, beaucoup moins d'enthousiasme. Pourquoi cet écart et combien de temps ça va durer, cet écart ?
C'est toujours deux façons de considérer un problème. Quand rien n'a été fait depuis longtemps, on peut considérer que c'est historique. Mm-hmm. Ça, c'est juste le fait que rien n'avait été fait dans ce sens-là et que la spirale infernale, elle existe depuis une dizaine d'années. Je voudrais juste dire deux choses très rapidement qui ont échappé à la vigilance, y compris des journalistes. Ça fait à peu près une dizaine d'années que, pour simplifier, on retire 1 milliard par an au budget de l'hôpital public par rapport au tendanciel des charges qui augmente chaque année, et c'est normal avec le vieillissement de la population. Ça correspond aussi à un moment où on a mis en place au niveau européen ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire l'obligation pour les pays d'envoyer leurs prévisions de dépenses de santé, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, et donc un cadenassage finalement du degré, et probablement dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte de stabilité. Et là, il y a une vraie question pour les Français, qui est de savoir si ils doivent ou non décider du niveau de financement de leur hôpital public.
Première souveraineté chose. En santé.
Ah, et ben oui, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Et ça, il faut rendre cette justice au Ségur. C'est un grand spécialiste de l'assurance maladie qui nous l'a expliqué. Mais ça n'était expliqué nulle part jusqu'à présent. Première chose. Deuxième chose très importante, c'est que à quoi va servir les 7,5 milliards d'euros qui ont été proposés? Il va servir effectivement à financer des personnels non médicaux, mais pas seulement à l'hôpital public. C'est-à-dire que le champ d'application, le périmètre d'application, concerne aussi les cliniques privées. Et ça, il y a une vraie question là aussi qui est très politique, qui est de savoir si la solidarité nationale doit s'exercer aussi pour les cliniques privées, c'est-à-dire pour le fait de maintenir le niveau de dividende des cliniques privées. Là aussi, il faut être clair sur les choses. Et je ne suis pas sûr, parce que là, c'est en train de passer là, comme si de rien n'était, mais je crois qu'il faut que ces informations soient disponibles pour les
Il y a certaines organisations syndicales qui se sont opposées justement sur la, on va dire, généralité de ces augmentations, surtout quand on recherche une attractivité particulière, un retour d'attractivité du secteur public. Je me tourne vers vous, on arrive vers la conclusion de notre émission, professeur Emmanuel Ruche. Protocole, est-ce que vous, votre regard, on ne parle pas de politique, on parle de santé, c'est important de le dire, est-ce que c'est ambitieux par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est insuffisant? Vous disiez, le Ségur, c'est la première marche d'un escalier.
Ah oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, je ne le conçois que sous cette forme-là, personnellement. Une première marche, parce que si c'est une dernière marche, alors effectivement, je pense que mon inquiétude va monter sur les mois qui viennent. Donc je pense que les points qui ont été à l'instant soulevés à la fois sur la dimension européenne et à la fois sur la question de l'articulation établissement public et établissements privés, notamment à but lucratif, et doit être aussi traité, parce que nous avons besoin d'un service public de santé en France, qui traverse l'ensemble des organisations, soins primaires, ambulatoires, soins à domicile et soins hospitaliers. Si j'avais un mot pour terminer, c'est je pense aussi qu'on n'est pas très outillé, on n'a pas beaucoup d'informations et ça m'inquiète sur l'état de santé des acteurs professionnels du système de santé. Alors c'est en partie lié à notre culture sanitaire. On a sans doute pas, les professionnels de santé se plaignent pas beaucoup, sans doute. une sorte de déni vis-à-vis de leur propre santé, mais avec cette pandémie, encore une fois, qui continue à courir, je pense qu'il faut vraiment mettre tous les moyens nécessaires pour que nos professionnels de santé soient au mieux. Alors ça passe certainement par une rémunération, mais aussi par les conditions de travail, mais aussi par la gouvernance.
Il y a cet épuisement, dès qu'on parle au personnel, en particulier aide-soignantes, infirmières, à chaque fois on entend parler d'épuisement.
Et nous n'avons pas d'études, d'ailleurs, épidémiologiques sur l'état de santé de nos soignants.
Alors, il y a un point, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je voudrais qu'on conclue peut-être là-dessus, parce que c'est technique, mais c'est essentiel. C'est la tarification à l'activité. Pour l'instant, on n'en a pas entendu parler au sein de ce Ségur. Est-ce que ça va encore exister demain? Est-ce qu'on va continuer, par exemple, à facturer tant de dizaines d'euros pour une radio, Voilà. En fait, choisir aussi parfois certains soins, on va dire, par rapport à leur rentabilité. Professeur Adnet, il va falloir aussi trancher sur cette question.
Oui, ben, écoutez, la tarification à l'activité, ça fait pratiquement trois ministres qui nous promet sa fin progressive. En fait, on ne voit absolument rien venir. Marisol Touraine avait annoncé la fin de la tarification à l'activité, qui est effectivement quelque chose de complètement inflationniste. C'est-à-dire qu'on essaye de courir après la rentabilité du malade à travers sa tarification. Mais comme le budget des hôpitaux il est fermé par l'ONDAM, l'ONDAM répond simplement en baissant les tarifs. Et donc c'est un système complètement vicieux qui ne vise en fait qu'à fermer des hôpitaux ou à fermer des lits, puisque dans une enveloppe fermée, on ne peut pas augmenter indéfiniment la rentabilité d'un hôpital. Donc c'est un système que même nos gouvernements, même nos ministres nous disent qu'il est inflationniste et qu'il faut l'arrêter, mais on ne voit absolument rien revenir officiellement concernant sa fin.
Docteur François Salakas, donc 14 juillet, Emmanuel Macron va parler. Vous attendez quoi? Vous attendez une surprise?
Écoutez, non, ce que j'attends, c'est ce qui s'est annoncé, sauf s'il s'engage sur l'avenir. Ça n'est qu'un début. Et voilà, dans les
il annonce un prochain round, on va dire, de négociation.
Oui, voilà. Mais je voudrais juste ajouter pour la tarification à l'activité que pour l'instant, les cliniques privées et puis ce qu'on appelle les ESPIC sont vent debout contre une diminution de la part de tarification à l'activité. Et pour une raison très simple, c'est que c'est leur volant de sûreté.
Ben c'est leur gagne-pain, tout simplement, oui.
Ben oui, tout simplement. Et donc, est-ce que c'est l'hôpital public qui doit s'aligner sur un modèle de gestion qui est là pour contrôler les ESPIC et les cliniques privées? Non. Donc là, on parle de 40% peut-être.
Il faut conclure.
Dite territoriale. Elle est mal définie. En tout cas, le couple infernal, gouvernance administrative et tarification à l'activité, signe quand même la mort de l'hôpital public. Donc, il faut absolument en sortir, il faut en sortir très très vite.
Débat loin d'être clos, comme dit un de mes confrères sur RFI. Merci à vous, à tous les trois, professeur Emmanuel Ruche, professeur Frédéric Adnet, et à vous, docteur François Salakas, je l'ai bien dit pour la fin. On se retrouve lundi, dans Priorité. Très bon week-end à toutes et à tous.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.